Cinquième jour, nonne. Où l'on administre la justice et l'on a l'embarrassante impression que tout le monde a tort.
Bernard Guy se plaça au centre de la grande table de noyer dans la salle du chapitre. Près de lui, un dominicain faisait fonction de tabellion et deux prélats de la légation pontificale étaient à ses côtés en tant que juges. Le scélérier se tenait debout devant la table, entre deux archers. L'abbé se tourna vers Guillaume pour lui murmurer « Je ne sais si la procédure est légitime. Le concile du Latran de 1215 a établi dans son canon 37 qu'on ne peut citer un prévenu à comparaître devant des juges qui siègent à plus de deux journées de marche de son domicile. Ici, la situation est sans doute différente, c'est le juge qui vient de loin, mais l'inquisiteur ne relève d'aucune juridiction régulière, dit Guillaume. Et il n'a pas à suivre les normes du droit commun. Il jouit d'un privilège spécial et n'est même pas tenu d'écouter les avocats. Je regardai le scélérier. Remigio était réduit à un état déplorable. Il regardait autour de lui comme une bête apeurée, comme s'il reconnaissait les mouvements et les gestes d'une liturgie redoutée. Je sais maintenant qu'il tremblait pour deux raisons, aussi épouvantables l'une que l'autre. L'une parce qu'il avait été pris, selon toute apparence, en flagrant délit. L'autre parce que, dès le premier jour, quand Bernard avait commencé son enquête, recueillant murmures et insinuations, il redoutait que vinssent à la lumière ses erreurs passées. Et il avait été saisi d'une plus grande agitation encore lorsqu'il avait vu prendre Salvatore. Si le malheureux Remigio était en proie à ses propres terreurs, Bernard Guy savait de son côté les manières de transformer en panique la peur de ses propres victimes. Il ne parlait pas. Alors que tous s'attendaient à ce qu'il engageât l'interrogatoire, il tenait ses mains sur les feuilles qu'il avait devant lui, faisant semblant de les réordonner, mais distraitement. Le regard était en vérité pointé sur l'accusé, et c'était un regard mêlé d'hypocrite indulgence, comme pour dire « N'aie crainte, tu es entre les mains d'une assemblée fraternelle, qui ne peut que vouloir ton bien », d'ironie glacée, comme pour dire « Tu ne sais pas encore quel est ton bien, et moi, d'ici peu, je te le dirai », d'impitoyable sévérité, comme pour dire « Mais dans tous les cas, je suis ton seul juge, et toi, tu es ma chose ». Ce que le scélérier savait pertinemment déjà, mais le silence et les atermoiements du juge servaient à le lui rappeler, presque à le lui faire mieux goûter, afin que, au lieu de l'oublier, il en tirât d'autant plus motif d'humiliation, que son inquiétude se transforma en désespoir, et qu'il devint bien la chose exclusive du juge, cire molle dans ses mains. Enfin Bernard rompit le silence. Il prononça certaines formules rituelles, dit au juge qu'on procédait à l'interrogatoire du prévenu pour deux crimes aussi odieux l'un que l'autre, dont l'un était à tous patent mais moins méprisable que l'autre, car en effet le prévenu avait été surpris en train de commettre un homicide quand il était recherché pour crime d'hérésie. Il l'avait dit. Le scélérier cacha son visage dans ses mains, qu'il bougeait à grand-peine car elles étaient serrées dans des chaînes. Bernard engagea l'interrogatoire. « Qui es-tu, toi ? » demanda-t-il. « Remigio de Varagine. Je suis né il y a 52 ans et je suis entré encore enfant dans le couvent des Minorites de Varagine. Et comment se fait-il que tu te trouves aujourd'hui dans l'ordre de Saint-Benoît ? Il y a des années, quand le souverain pontife fulmina la bulle Sancta Romana, comme je craignais d'être contaminé par l'hérésie des fraticelles, tout en n'ayant jamais adhéré à leurs propositions, je pensais qu'il était plus utile à mon âme pécheresse de me soustraire à un milieu lourd de séduction, et j'obtins d'être admis parmi les moines de cette abbaye, où depuis plus de 8 ans je sers en tant que scélérier. Tu t'es soustrait aux séductions de l'hérésie, persifla Bernard. Autrement dit, tu t'es soustrait à l'enquête de ceux qui étaient chargés de découvrir l'hérésie et d'en déraciner la malplante. Et les bons moines clunisiens ont cru accomplir un acte de charité en t'accueillant, toi et ceux de ton espèce. Mais il ne suffit pas de changer de froc pour effacer de son âme la turpitude de la dépravation hérétique. Et c'est pour cela que nous sommes ici maintenant, à explorer les recoins de ton âme impénitente et à examiner les faits qui ont précédé ta venue dans ce lieu saint. Mon âme est innocente, et je ne sais pas ce que vous entendez quand vous parlez de dépravation hérétique, dit prudemment le scélérier. Vous voyez, s'exclama Bernard à l'adresse des autres juges, tous de la même mot, ceux-là. Quand l'un d'eux est arrêté, il comparaît en justice comme si sa conscience était tranquille et sans remords.
Et ils ne savent pas que c'est là le signe le plus évident de leur faute, car le juste a son procès, comparé pris d'inquiétude. Demandez-lui s'il connaît la cause pour laquelle j'avais préparé son arrestation. Tu la connais, Remigio ?
Seigneur, répondit le cellérier, je serais heureux de l'apprendre de votre bouche. Je fus surpris, car il me semble que le cellérier répondait aux questions rituelles avec des mots tout aussi rituels, comme s'il connaissait bien les règles de l'instruction et ses chausse-trappes, et que depuis longtemps il avait été instruit pour affronter un pareil événement.
« Voilà !» s'écriait alors Bernard, « la réponse typique de l'hérétique impénitent. Ils parcourent leur sentier de renard, et il est très difficile de les prendre en faute car leur communauté admet le droit au mensonge pour éviter le châtiment mérité. Ils ont recours à des réponses tortueuses pour tenter d'abuser l'inquisiteur, qui doit déjà supporter le contact de gens aussi méprisables. Or donc, Remigio, tu n'as jamais rien eu à voir avec Lady Fraticelle, ou Frère de la Pauvre Vie, ou Béguin ?
J'ai vécu les vicissitudes des frères mineurs lors de la longue discussion sur la pauvreté, mais je n'ai jamais appartenu à la secte des Béguins.
Vous voyez, dit Bernard, il nie avoir été Béguin parce que les Béguins, tout en participant de la même hérésie que les Fraticelles, considèrent ces derniers comme une branche sèche de l'ordre franciscain et se jugent plus purs et parfaits qu'eux. Mais nombre de comportements des uns sont communs aux autres. Peux-tu nier, Remigio, d'avoir été vu à l'église recroquevillé, la face tournée vers le mur, ou prosterné, la tête couverte du capuchon, au lieu d'être agenouillé, les mains jointes, comme les autres hommes? Dans l'ordre de Saint-Benoît aussi, on se prosterne à terre au moment voulu. Je ne te demande pas ce que tu as fait dans les moments voulus, mais dans les autres moments. Tu ne nies donc pas avoir pris l'une ou l'autre posture, typique des Béguins. Mais tu n'es pas Béguin, as-tu dit? « Et alors, dis-moi, à quoi crois-tu ?»«
Seigneur, je crois à tout ce que croit un bon chrétien. »«
Quelle sainte réponse ! Et que croit un bon chrétien ?»«
Ce qu'enseigne la Sainte Église. »«
Et quelle Sainte Église ? Celle que jugent-elles les croyants qui se définissent parfaits, les pseudo-apôtres, les fraticelles hérétiques, ou l'Église qu'ils comparent à la prostituée de Babylone, et en laquelle nous tous, au contraire, croyons fermement ?»
« Seigneur, dit le cellérier dérouté, dites-moi vous celle que vous croyez être la véritable Église ?»«
Moi, je crois que c'est l'Église romaine, une sainte et apostolique gouvernée par le pape et par ses évêques. »«
C'est ce que je crois, dit le cellérier. »
« Admirable astuce, s'écria l'inquisiteur, admirable subtilité de dicto, vous l'avez entendu. Il veut dire qu'il croit que je crois à cette Église ?» Et il se dérobe au devoir de dire en croix, il croit, lui. Mais nous connaissons bien ces artifices de fouine. Mais venons-en au fait. Crois-tu que les sacrements aient été institués par notre Seigneur, que pour faire une juste pénitence, il faille se confesser aux serviteurs de Dieu, que l'Église romaine ait le pouvoir de délier et de lier sur cette terre ce qui sera lié et délié au ciel?
Ne devrais-je pas le croire, peut-être?
Je ne te demande pas ce que tu devrais croire, mais ce que tu crois.
Moi, je crois à tout ce que vous et les autres bons docteurs m'ordonneraient de croire, dit le cellérier épouvanté.
Ah ! Mais les bons docteurs auxquels tu fais allusion, ne sont-ils pas par hasard ceux qui commandent ta secte ? C'est ce que tu entendais dire quand tu parlais des bons docteurs. C'est à ces menteurs pervers qui s'estiment les uniques successeurs des apôtres que tu te réfères pour connaître tes articles de foi ? Tu insinues que si moi je crois à ce que crois, alors tu me croiras. Autrement dit, tu ne croiras qu'en eux.
Je n'ai pas dit cela, Seigneur, balbutia le cellérier. C'est vous qui me le faites dire. Je crois à ce que vous me dites, si vous m'enseignez ce qui est bien.
Oh, arrogance, s'écria Bernard en frappant du poing sur la table. Tu répètes de mémoire avec une louche détermination le formulaire qu'on enseigne dans ta secte. Tu dis que tu me croiras dans la mesure où je prêche ce que ta secte juge être le bien. Ainsi ont toujours répondu les pseudo-apôtres, et ainsi maintenant tu réponds, sans t'en rendre compte peut-être, car réaffleure à tes lèvres les phrases qui te furent enseignées naguère afin de tromper les inquisiteurs. Et ainsi es-tu en train de t'accuser avec tes propres paroles. Et moi, je donnerais dans ton piège si je n'avais une longue expérience d'inquisition, mais venons-en à la vraie question. Homme pervers, n'as-tu jamais entendu parler de Gérard Segalelli de Parme ?
J'en ai entendu parler, dit le cellérier en pâlissant, si tant est qu'on pût encore parler de pâleur pour ce visage défait.
N'as-tu jamais entendu parler de Fra Dolcino de Novare ?
J'en ai entendu parler.
Ne l'as-tu jamais vu en personne? As-tu conversé avec lui? »
Le cellérier garda quelques instants le silence, comme pour peser jusqu'à quel point il lui conviendrait de dire une partie de la vérité. Puis il se décida et avec un filet de voix,
« Je l'ai vu et je lui ai parlé. »
« Plus fort !» cria Bernard. « Qu'enfin on puisse entendre un mot vrai s'écouler de tes lèvres. Et quand lui as-tu parlé ?»«
Seigneur, dit le cellérier, j'étais frère dans un couvent du Novarois lorsque les gens de Dolcino se réunirent dans cette région et passèrent aussi à côté de mon couvent. » Et au début, on ne savait pas trop bien qui ils étaient.
Tu mens! Comment un franciscain de Varagine pouvait-il être dans un couvent du Novarois? Tu n'étais pas dans un couvent. Tu faisais déjà partie d'une bande de fraticelles qui parcouraient ces terres en vivant d'aumône, et tu t'es uni aux Dolciniens.
Comment pouvez-vous affirmer cela, Seigneur? Dit en tremblant le cellérier.
Je te le dirai comment je peux, ou plutôt je dois l'affirmer, dit Bernard,
et il donna l'ordre confiant et salvateur. La vue du malheureux, qui avait certainement passé la nuit en un interrogatoire non public et plus sévère, m'émut de pitié. Le visage de Salvator, je l'ai dit, était d'habitude horrible. Mais ce matin-là, il avait l'air encore plus semblable à celui d'un animal. Il ne portait pas de marque de violence, mais la façon dont le corps enchaîné avançait, avec ses membres déboîtés, presque incapables de bouger, traîné par les archers comme un singe attaché à sa corde, proclamait bien haut la manière dont avait dû se dérouler son atroce réponse.